Antidote.
Anne Cazobon.
Ah, la magie de Noël, les retrouvailles en famille, le feu de cheminée, le sapin qui clignote et les cadeaux qui attendent patiemment. Qui attendent patiemment de se faire revendre sur Internet. Ah bah si, selon une étude OpinionWay commandée par Price Minister l'année dernière, un Français sur deux a déjà revendu un cadeau de Noël ou envisage de le faire. Oui, dans le mois qui suit Noël, pas moins de 3 millions de mises en vente seront faites avec la mention « comme neuf », « cadeau jamais ouvert » ou « reçu en double ». Toute cette course au cadeau, tout ce stress du mois de décembre, pour rien ? Franchement, c'est d'un cynisme. Sauf qu'à bien y regarder, c'est peut-être à l'image de la vie. Tous ces cadeaux qu'elle nous fait et dont on ne veut pas parfois, que l'on n'ouvre même pas, que l'on croit identiques aux précédents, que l'on ne déballe pas de peur qu'ils changent le cours des choses. Peut-être aviez-vous rêvé de l'immeuble de Barbie, vous savez, celui avec l'ascenseur rose. Et vous n'avez eu que le camping-car Playmobil. Enfin ça, c'est ce que vous croyez. Parce que peut-être que ce camping-car Playmobil, c'est exactement ce qu'il vous faut. Peut-être que c'est avec lui que vous allez vivre de folles aventures, que vous allez vous révéler à vous-même. Et je pense que j'arrêterai là cette allégorie du jouet pour enfants qui devient presque gênante. Mais vous avez compris le message. En version pour adultes non censurée, ça donne ça. Peut-être imaginez-vous qu'à l'âge que vous avez, vous seriez grand-parent, vous seriez propriétaire, vous auriez un métier tout à fait différent, vous seriez mère de 3 enfants, vous habiteriez à l'étranger. Sauf qu'à bien y regarder, elle déborde de richesses toutes nos vies. Et si ce soir, on déballait tous ces cadeaux qu'elle nous envoie ? Et si ce soir, on en profitait pour dire merci ?
Europe 1. Antidote.
Anne Cazobon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Antidote, 2 heures de développement personnel autour d'une valeur en hausse, j'ai nommé la gratitude. Et non, ce n'est pas un gros mot. Et oui, vous allez voir que non seulement ça fait un bien fou, mais aussi que c'est gratuit et qu'en plus, ça peut rendre très heureux. À ce rythme-là, j'ai quand même envie de vous dire que demande le peuple. Le programme peut-être ? D'accord, alors on y va. Jusqu'à 22h donc sur Europe 1, on va s'intéresser à ce mot qui cache de nombreux super pouvoirs, merci. Et merci qui au fond ? Papa, maman, la vie, l'univers, Dieu si vous y croyez, merci. Qui ? Telle est la question. Avec nous pour siroter cet antidote de Noël, Florence Servan-Schreiber. Bonsoir.
Bonsoir.
J'ai envie de dire que la gratitude, c'est un peu votre meilleur ami, puisque vous êtes l'auteur des best-sellers Power Patate, vous avez des super pouvoirs, de 3 kiffs par jour et autres rituels pour le bonheur, aux éditions Marabout. Vous êtes diplômé en psychologie transpersonnelle, formé à la programmation neurolinguistique. La psychologie positive, c'est votre sujet. La gratitude, en fait, c'est comme un mode de vie pour vous.
C'est devenu un mode de vie, absolument. À partir du moment où j'ai découvert tous ces impacts, j'ai été tentée d'essayer.
C'est presque une hygiène de vie, en fait, au quotidien.
Oui, c'est vraiment c'est un style de vie. C'est-à-dire que maintenant, ça se retrouve à peu près dans tout ce que je peux être amenée à faire, rencontrer, croiser. C'est vrai.
À vos côtés, je suis ravie d'accueillir la comédienne Joanne Toledano. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez hier soir sur scène,
oui,
à jouer votre seule en scène, c'est comme ça que l'on dit,
tout
au théâtre
fait.
Des Feux de la Rampe à Paris, dans lequel vous racontez votre chemin initiatique, on va y revenir, comment d'une première vie de juriste dans un grand groupe, vous êtes devenue comédienne. Et cela passe aussi par un réveil du corps, par la maladie parfois, par la thérapie et les stages de développement personnel. Votre spectacle s'appelle L'Ego, mon jeu préféré. Alors est-ce que c'est l'ego justement qui peut nous empêcher d'être dans la gratitude parfois?
Alors d'abord, Anne, merci de nous recevoir.
Et avec joie.
Je suis très heureuse d'être là. C'est une vaste question parce que l'ego, c'est un concept assez complexe et qui est perçu et défini de façon différente, que ce soit d'un point de vue en psychanalyse ou en développement personnel. En entendant votre question, je me demande justement si ça, l'inverse n'est pas vrai aussi. C'est-à-dire que lorsque l'ego est un petit peu, on va dire, gratouillé, est-ce que justement c'est pas à ce moment-là qu'on dit merci? C'est-à-dire il y a plein d'obstacles à dire merci. Je pense que le premier, c'est que on n'y pense même pas des fois. C'est-à-dire que on est tellement dans notre mental, enfermé dans nos peurs, dans nos besoins inassouvis, que du coup le merci n'est plus quelque chose de spontané.
Florence Servan-Schreiber, on oublie de dire merci régulièrement?
En fait, notre cerveau n'est pas organisé comme ça, spontanément. Il est plutôt organisé, c'est une mécanique de défense très très utile, à percevoir le négatif. Donc, se plaindre, repérer ce qui ne va pas, ça il le fait très facilement. Mais c'est vrai que cette petite démarche qui est d'aller non seulement célébrer ce qui est formidable, parce que ça commence quand même par ça, il faut déjà repérer qu'il y a eu un truc chouette, et aller plus loin pour dire merci, ça n'est pas tout à fait naturel dans notre mécanique de base.
Alors justement, ce soir, pendant 2 heures, on va apprendre à dire merci jusqu'à 22h dans Antidote. Et puis, telle une guirlande qui clignoterait tout au long de l'émission, Antidote va vous faire entendre de jolies histoires de gratitude, du quotidien extraordinaire, des expériences de vie racontées par ceux qui font et ceux qui écoutent Europe 1. Parce que de part et d'autre du micro, on vit tous ces instants magnifiques qui nous redonnent foi en l'homme avec un grand H. Oui, parce qu'il n'y a pas que des porcs à balancer, il y a aussi quelques belles âmes à honorer. Ces inconnus qui vous ont tendu peut-être un mouchoir pour essuyer vos larmes, ceux qui ont prononcé une phrase qui a changé votre vie. Vous allez entendre ces merci à un inconnu et vous pouvez d'ailleurs aussi venir nous raconter vos histoires sur les réseaux sociaux avec le hashtag merci à un inconnu. Oh, et puis j'allais oublier.
Hello, my name is David Lynch and I will be here on Antidote.
Ben oui, quand je vous disais qu'on avait du beau monde ce soir pour parler de gratitude, David Lynch, le seul, l'unique, le vrai, nous racontera lui aussi son merci à un inconnu et comment il entretient cette gratitude au quotidien. En tout cas, ravi de partager cet Antidote de Noël avec vous. Soyez le bienvenu, David.
Merci beaucoup.
Non, ça me fait plaisir. Allez, je vous propose de nous mettre tout de suite dans l'ambiance grâce au crooner canadien Michael Bublé, qui reprend un standard de circonstance. Voici Santa Claus is coming to town dans Antidote sur Europe 1. Allez, envoyez les cuivres.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. You better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming. I mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town.
And Jazzy Hands, Michael Bublé, Santa Claus is coming to town sur Europe 1. Ah, juste le temps de sortir la dinde du four et Antidote revient, histoire d'ouvrir tous ces cadeaux de la vie à côté desquels on a failli passer.
Europe 1, Antidote. Anne Cazobon.
Antidote, on est ensemble jusqu'à 22h, ravis de partager avec vous cette soirée de Noël sur Europe 1. Que vous soyez au volant, en route pour rejoindre des proches ou en plein préparatif, en cuisine. D'ailleurs, faudrait peut-être penser à baisser le feu là sous la casserole. Que vous participiez à Noël solidaire peut-être, que vous soyez au travail aussi. On pense à vous, on vous dit merci, gratitude infinie pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux, pour les militaires en opération, pour ceux qui sont loin de chez eux, loin de leurs proches, ceux qui sont hospitalisés aussi, ceux qui sont seuls. La belle nouvelle, c'est que ce soir, nous sommes tous reliés pour exprimer ensemble notre gratitude, d'autant plus que la gratitude, Florence Servan-Schreiber, il paraît que c'est bon pour la santé.
Alors oui, c'est une émotion qui en fait est tellement puissante. En psychologie positive, le principe c'est que les chercheurs vont s'intéresser aux effets, notamment psychologiques mais aussi physiologiques, par exemple de certaines émotions. Et alors, la gratitude a une particularité, je peux peut-être vous raconter une histoire, comment sait-on que la gratitude va avoir un effet sur nous. En fait, des chercheurs se sont demandé si la gratitude, il existait un lien entre la gratitude et la longévité. Mm-hmm. Alors voilà, comment peut-on savoir un truc pareil? Ils se disent que quand on parle de longévité, il faut évidemment retrouver des gens qui ont exactement le même mode de vie. C'est-à-dire qu'ils mangent la même chose, ouais. Qui exercent le même métier, qui vivent au même endroit, respirent le même air. Alors, si ce sont des femmes, il faut qu'elles aient le même nombre d'enfants. Si on veut vraiment des gens, voilà, que personne ne fume, bien sûr. Et puis alors, après, on se dit, bon, bah, du coup, si jamais on pouvait trouver des gens qui étaient tous mariés à la même personne, ce serait quand même le rêve. Donc, ils commencent à chercher. Ils ont trouvé. Ils sont allés dans un couvent. Donc dans un couvent, voilà des dames qui ont exactement le même mode de vie, font la même chose, et il se trouve qu'elles sont mariées tout au même monsieur. Donc c'était quand même tout à fait idéal.
Un grand monsieur barbu. Polygame.
C'est ça. Et alors, dans ce couvent-là, qui existe depuis 150 ans, à chaque fois qu'une jeune femme arrivait, on lui demandait d'écrire une lettre qui raconte sa vie. Donc on donne la boîte qui contient toutes ces lettres à des sémanticiens. Les sémanticiens, ce sont des gens qui étudient la teneur du vocabulaire. Et là, on leur demande de lire ces lettres et de quantifier la densité de termes ou d'expressions ou de descriptions qui manifestent de l'émerveillement et de la gratitude. Voilà. Donc, s'il y en a une qui dit « j'ai grandi dans une ferme, j'avais un chien, un frère », bon. S'il y en a une autre qui dit « je m'appelle Elisabeth, j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 15 ans, j'ai hâte de mettre ma vie au service des autres », on a une tonalité différente. Et puis, dans une autre boîte, il y a les dossiers médicaux de ces femmes. Donc on sait, pour celles qui sont déjà mortes, à quel âge elles sont mortes, de quoi, ce qu'elles ont eu comme maladie, etc. Et là, en rapprochant les deux, on se rend compte que plus elles étaient émerveillables ou émerveillées, mais à l'âge de 20 ans, plus elles ont vécu longtemps. Et à tel point qu'on a été capable de le quantifier, puisqu'on sait qu'elles ont gagné jusqu'à 7 ans d'espérance de vie. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient cette capacité à simplement repérer les choses qui étaient formidables, à s'émerveiller de ces choses-là, à s'arrêter une seconde pour se dire pour ça, merci.
Merci pour cette belle histoire et surtout pour nous dire qu'il faut commencer très jeune et qu'il faut éduquer nos enfants. Alors, à l'émerveillement.
Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que ça n'est pas perdu. Si jamais on s'y est pas pris à temps, absolument. C'est-à-dire que c'est un muscle, la gratitude. Et notre capacité à nous émerveiller peut se travailler.
Et vous le savez, dans cette émission, tout au long d'Antidote, jusqu'à 22h, on va également entendre toute cette série de merci, lancés comme des bouteilles à la mer, à des inconnus auxquels on doit une fière chandelle. Et qui sait, peut-être vous reconnaîtrez-vous dans l'une de ces histoires.
Merci. Merci bien.
Merci. Merci beaucoup.
Merci aux gens qui m'entourent dans la vie.
Et là, je suis obligé de dire merci, ce que je fais d'ailleurs de tout cœur.
Mes chers amis, merci.
Antidote. Merci à un inconnu.
Bonjour, c'est Émilie Mazoyer. Je travaille à Europe 1 et si je le précise, c'est parce que c'est grâce à une dame, une inconnue, et c'est elle que je voudrais remercier aujourd'hui. Je ne connais pas son nom, je ne sais pas d'où elle venait, je me souviens de son visage. Elle avait un beau visage, très ouvert, très souriant, comme ça avec des cheveux tirés en arrière. Et j'étais avec des copines, j'étais adolescente, on traînait devant le lycée, on fumait des clopes, on faisait pas grand chose d'intéressant, on rigolait très fort comme toutes les adolescentes. Et cette dame est passée et elle s'est arrêtée et au lieu de nous juger comme faisaient beaucoup les adultes, elle nous a un petit peu écoutés et puis elle s'est approchée de moi, elle a mis sa main sur mon avant-bras et elle m'a dit « Vous avez une voix de radio mon petit ?» Puis elle est partie. Et alors bon bah moi, avec mon état d'esprit de 15 ans, mon plan de carrière n'était pas franchement prêt dans ma tête. Et j'ai toujours gardé ça en tête. Et du coup, le jour où il a fallu rassembler mon courage pour aller candidater dans une radio, j'ai repensé à elle. Et j'ai dit, après tout, si j'ai pu en convaincre une, peut-être j'arriverai à en convaincre d'autres. Donc voilà, merci Madame l'Inconnue. Vous avez un petit peu changé ma vie quand même.
Bonjour, c'est Laetitia. Je voulais vous raconter mon merci à un inconnu. Et en fait, cet inconnu est trois personnes. Lors d'un déplacement professionnel à Barcelone, à un moment de ma vie un petit peu compliqué, je sors de mon appartement pour le week-end et je mets la musique sur les oreilles sans trop de but en me promenant dans les rues de Barcelone. Et là, je tombe sur une femme, SDF, qui fait la manche, à laquelle j'envoie un sourire parce que c'est un être humain, tout simplement. Et en retour, elle m'attrape le bras et ouvre son sac pour me tendre un gâteau, alors que rien ne prédisposait à tout ça. Et quelques mètres plus loin, toujours la musique sur les oreilles, sur un banc sont deux SDF avec des grands sombreros, plus mexicains qu'espagnols par ailleurs. Et ils me sautent dans les bras en me disant que je respire l'humanité. Et ce sera mon deuxième merci à un inconnu, parce que ça fait beaucoup de bien.
Bonsoir, c'est Franck Ferrand. J'aurais 1000 merci à adresser à 1000 personnes connues ou inconnues. Mais ce soir, mon merci va plus particulièrement à une dame dont je n'ai jamais su le nom, que j'ai pourtant croisée plusieurs fois il y a 25 ans. Elle était la femme de ménage du centre d'affaires au sein duquel je travaillais. Et un soir où j'étais particulièrement désespéré, je venais de raccrocher mon téléphone et j'avais eu au téléphone mon associé qui m'annonçait de très mauvaises nouvelles sur nos affaires qui, disons-le, n'étaient pas florissantes. Cette dame, qui normalement était là uniquement pour venir vider les corbeilles et s'assurer que le bureau serait en ordre pour le lendemain matin, s'est approchée. Elle m'a observé et quand elle a vu que j'avais repéré sa présence, elle m'a dit avec un très fort accent de l'Afrique occidentale, d'ailleurs cette dame était assez extraordinaire même dans son apparence, elle m'a dit « Vous savez, je vous vois très tracassé sur une toute petite chose. Vous me faites penser à quelqu'un qui aurait beaucoup de chance et qui se focaliserait sur un tout petit problème qui n'est même pas un vrai problème. Essayez de voir tout ce que vous avez, essayez de voir tout ce qui fait la beauté de votre vie et à mon avis, vous allez changer de visage. » Et effectivement, je me suis mis aussitôt à sourire. Et très souvent, de nos jours encore, je repense à cette dame et à son merveilleux conseil.
Je voudrais remercier cet incroyable inconnu qui m'a sauvé de ma voiture qui était au bord de la route, embourbée dans de l'eau, dans de la boue, et j'étais toute seule, il était 4h du matin, je me sentais seule et désespérée. Il s'est arrêté avec toute sa petite famille, les deux enfants qui dormaient à l'arrière et sa femme. Il est sorti de sa voiture, il était tout endimanché. Il n'a pas hésité une seconde à mettre ses pieds dans l'eau, dans la boue, à m'aider à pousser ma voiture, à la mettre sur le côté. C'était incroyable, il n'a absolument pas fait de réflexion. Et en plus, il m'a proposé de me ramener chez moi, donc à l'autre bout de la ville. Et ce qu'il a fait, et voilà, j'aurais aimé pouvoir le remercier, ce que je fais, parce que c'était un moment d'une gentillesse et d'une générosité incroyable que je n'ai pas oublié, même 25 ans après.
Antidote.
Merci à un inconnu. Il y a aussi Charlotte qui remercie ce sans-abri. C'était juste après les attentats. L'homme lui a rendu la monnaie de sa pièce avec des mots, en lui lançant qu'elle aurait beaucoup d'amour dans sa vie. Le genre de phrase que l'on n'est pas prêt d'oublier. Il y a Laurence aussi qui se souvient de ses 17 ans et de ce vieil Italien élégant qui, devant ses larmes d'adolescente en voyage en Italie, avait réglé la consigne dans laquelle son sac à dos était resté enfermé, faute d'argent. Il y a Barbara qui remercie cette dame lumineuse, croisée dans un métro, qui l'avait invitée à libérer son chagrin et qui, par là même, l'avait accompagnée de ses larmes. Et vous, quel est l'inconnu que vous souhaitez remercier ?
Europe 1, Antidote.
Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in.
doesn't really feel like Christmas at all.
Christmas Light, c'était Coldplay sur Europe 1 dans Antidote.
Europe 1, Antidote.
Jusqu'à 22h, Antidote se laisse infuser tranquillement, telle une petite décoction miraculeuse pour nous rendre la vie plus belle. Et pour cause, ce soir on parle de gratitude en compagnie de Florence Servan-Schreiber, professeure de bonheur est gratitude. J'espère que ce titre vous va.
Très bien.
Et Joanne Toledano, comédienne. Alors justement, Joanne Toledano, je voudrais qu'on s'arrête un moment sur votre parcours hautement initiatique que vous mettez en scène dans votre spectacle Lego, mon jeu préféré au Théâtre des Feux de la Rampe à Paris. Vous vous rêviez d'être danseuse au départ. Et puis, vous avez fait droit. Alors, oui. Comment est-ce qu'on passe de la barre au barreau?
C'est une belle entrée en matière. Eh bien, écoutez, c'est toujours ce gap qu'il y a entre ce qu'on veut, ce qu'on peut, ce qu'on doit, ce qui est. Donc, moi, je rêvais depuis que je suis toute petite. Je faisais beaucoup de danse. J'étais tout le temps par ma famille dans les mariages, mise au milieu de la piste de danse pour danser. C'était vraiment une passion très très forte chez moi. Mais voilà, j'ai grandi dans un cadre familial assez conservateur, assez traditionnaliste, etc., avec tous les bons côtés de cette éducation-là, mais aussi toutes les peurs et les angoisses qui viennent, qui existent dans ces familles. Et du coup, on attendait beaucoup de moi que je rentre que je m'engage dans l'autoroute de la sécurité, qui était celui de voilà, les grands classiques, faire médecine, droit, etc. Et du coup, logiquement, je me suis inscrite en fac de droit et j'ai été très loyale à ma famille, à ma lignée, parce que j'étais jusqu'au bout de mes études. J'ai fait 6 ans de droit, j'ai même travaillé en tant que juriste, etc. Mais pendant toutes ces années, il y avait en moi une partie de moi qui était... je pense très frustrée, un peu en colère, voilà. Et c'est ce que je dis, c'est que j'entendais, je travaillais, j'allais tous les jours à mon bureau, j'étais directrice juridique dans un groupe américain, et j'entendais cette voix à l'intérieur qui me disait fais demi-tour, ce n'est pas la bonne autoroute, demi-tour, prends la première sortie ratée, prends la deuxième sortie, l'itinéraire bis, le GPS intérieur, justement, cette voix comme ça qui crie et qui d'abord chuchote, hein, qu'on n'ose pas entendre, et puis après et devient de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus forte, et essaye par moult stratégies de se faire entendre, et jusqu'au moment où
elle trouve la voie du corps.
Elle trouve la voie du corps, voilà, c'est exactement ça.
Malade.
Tout à fait. Je somatisais, comme on dit, énormément. J'avais beaucoup de mon corps essayait par tous les moyens de m'envoyer ces messages, des allergies, maladies chroniques, infections. Enfin, ça partait. D'ailleurs, je le dis dans mon spectacle, je fais ce petit listing comme un slam des maladies,
des pathologies,
des pathologies psycho, etc. Et voilà. Et puis à un moment donné, ça devient vraiment vital de sortir de cette autoroute et d'aller prendre le chemin des chèvres.
Alors justement, pour vous soigner, on le voit dans votre spectacle L'ego, mon jeu préféré, vous allez voir tout un tas de médecins pour voilà savoir quel est le mal qui vous ronge à l'intérieur. Et vous atterrissez à un moment donné au Maroc, chez une thérapeute que vous voyez à l'époque.
Olivia Zitouna, pourquoi tu es venue me voir aujourd'hui? Oh oui, alors pas le mari, oui. Pas les enfants, oui. Plus le travail, oui. Et bientôt plus l'appartement. Oui, 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 oui. T'es foutu. Je vais te dire, Habiba, tu peux avoir tout ça et c'est la même merde. Moi, bien sûr. Eh ouais. Oui, 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 oui. T'es tombé comme ça le mariage. Oui. Tu es parti gastrologue. La merde. Ouais. Le psychologue. Ah, c'était bien passé. Ouais. Ils ont des beaux gosses psychologues, ouais. Ah, j'allais le dire. La culpabilité, la famille, l'angoisse. Tu restes coincé dans l'impasse de ta vie. Ouh là là, je vais te dire, ma chérie. C'est bien, tu fais le travail sur toi-même. T'écoutes pas les gens qui disent les psys, c'est pour les faux, les malades de la maladie. Là, là, là. Un jour, tout ça, ça prend tout son sens. Et l'ego, ça devient ton jeu préféré.
Et quel sens ça prend si un jour ça prend tout son sens, Joanne Toledano?
C'était...
Pourquoi on traverse tout ça?
Je pense que chacun vit cette expérience-là à sa manière. Je pense que le sens que ça prend, c'est le sens qu'on veut bien lui donner déjà, et puis cette quête d'apaisement, de bonheur, de... Alors le bonheur c'est un grand mot, mais en tout cas d'avoir un maximum de moments de répit dans sa vie. Voilà, le sens que ça prend, c'est de donner, ça donne une boîte à outils, et quand on traverse des épreuves difficiles, et voilà. J'en ai d'ailleurs traversé des très compliqués il n'y a pas si longtemps, et j'ai eu la chance, enfin je me suis offert cette chance pendant les années qui ont précédé, de me construire, de me remplir cette boîte à outils. Et dans les moments compliqués, je me suis dit, mais j'ai ma boîte à outils, j'ouvre cette boîte et je me dis, ok, là j'ai ça, j'ai l'outil de la méditation, j'ai l'outil, pour parler concrètement, hein, l'outil de la méditation, l'outil de la respiration, la kinésiologie, etc. Et du coup, cette boîte à outils, elle est là. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de gratitude envers cette boîte à outils qui m'accompagne.
Alors moi, quand on parle de boîte à outils, je me tourne vers vous, Florence Servan-Schreiber, parce que vous aussi, vous montez sur scène avec la Fabrique à Kif pour nous donner des outils, pour nous aider à être plein de gratitude dans nos vies.
Oui. La question, vous savez, que je me pose tout le temps, comme ce que j'aime, c'est apprendre aux autres ce que j'ai appris un quart d'heure avant eux. C'est de me dire, mais comment peut-on le faire pour que ce soit le non seulement le plus digeste, mais le plus sympa possible. Enfin, franchement, donc vous savez, dans la journée, donc je suis vraiment professeur de bonheur, c'est-à-dire que je parcours les entreprises pour apprendre aux gens quels sont des outils, des pratiques, des comportements, des modes de relations que l'on peut investir pour se sentir mieux, travailler mieux les uns avec les autres. Mais le soir, j'ai eu envie avec Isabelle Payot et Audrey Hakoun, donc qui sont deux psys, elles soignent vraiment des gens dans la vie réelle, de venir enseigner tout ça d'une façon beaucoup plus détendue, plus ludique, plus marrante, plus accessible. Parce qu'après tout, pourquoi apprendre de manière un peu
il faut
faire rire les gens.
Voilà, pour que les gens puissent s'identifier et puissent vraiment adhérer, écouter et entendre le rire.
C'est ça. Et alors toutes les trois, nous avons mélangé notre propre histoire, parce que comme Joanne, il y a aussi eu voilà pas mal d'oignons épluchés. On a épluché l'oignon jusqu'à arriver à se reconnecter à ces
trois. Le dépouillement personnel.
Oui, c'est ça. C'est
enlever les couches.
Et puis ces trois petites filles, en fait, qui avaient envie de monter sur scène, parce que chez nous, c'était moins puissant que chez Johan, dans le sens où ça n'était pas l'un ou l'autre. Ça pouvait venir avec notre vie actuelle. Donc,
Composer un peu avec.
Voilà, on peut composer, on peut le faire en douceur aussi, tout ce chemin de se dire, mais qui sommes-nous vraiment dans le fond? Donc voilà, trois petites filles qui ont grandi, qui se disent, après tout, on avait quand même envie de faire un peu de s'amuser sur une scène de théâtre. Et donc, c'est ça que nous avons fait, avec énormément de bonheur, à la fois pour nous et c'est vrai pour nos spectateurs aussi.
Et vous montez beaucoup sur scène puisque vous donnez des conférences également sur la gratitude. Notamment, j'invite tous les auditeurs d'Europe 1 à se rendre sur les plateformes TED. La plateforme TED sur Internet, vous savez, c'est l'endroit où on trouve toutes ces conférences gratuites. Elles font moins de 18 minutes, on y partage des idées inspirantes. Et je les invite à venir écouter votre conférence sur le pouvoir de la gratitude.
Oui, le pouvoir de la gratitude, c'est donc un exercice en 12 minutes qui est de raconter tout ce que l'on peut raconter, d'essayer d'apprendre quelque chose. Alors c'est très très ficelé, vous savez, quand on fait une conférence TED, on vous fait répéter, il y a un cadre très strict, mais c'est bien parce que chaque mot est choisi, chaque idée est pesée. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir en faire une sur le pouvoir de la gratitude qui moi-même m'a aidé à vraiment mettre tout ça en ordre.
Souvenez-vous, Noël 73, la chanson qui passait sur toutes les ondes à cette époque-là, c'était celle écrite par Johnny Hallyday et Michel Mallory. Noël interdit sur Europe 1, c'est possible.
C'est un Noël pour les enfants perdus, pour tous ceux qui n'y ont jamais cru. C'est un Noël pour les chiens sans collier, pour ce gosse de la rue. J'étais Noël de ma vie, mon Noël interdit. J'aurais tant aimé croire à l'histoire.
De gratitude ce soir. Merci pour la musique, Johnny. C'était Noël interdit sur Europe 1. Antidote revient dans un instant, le temps d'aller chercher quelques petits fours et de nouveau merci à un inconnu. A tout de suite.
Antidote sur Europe 1.
Anne Cazobon.
Développement personnel et gratitude sous le sapin, ou plutôt au sommet du sapin. Ah bah oui, rien n'est trop beau pour Antidote jusqu'à 22h. Sur Europe 1, la bûche est au frigo ou dans la cheminée, c'est au choix. Et nous, en très bonne compagnie, celle de la psychologue et bien plus encore Florence Servan-Schreiber et de la comédienne et bien plus encore Joanne Toledano. Oui, avec ce genre de femmes, il devient difficile de définir leurs contours et de les réduire à de simples statuts pour les impôts. Avec vous, mesdames, nous apprenons donc à savourer nos vies et l'un des outils que l'on peut conseiller à nos auditeurs, et que vous préconisez d'ailleurs, Florence Servan-Schreiber, c'est de tenir un journal de gratitude.
absolument archivalidé par des laboratoires, justement, pour en connaître les effets secondaires. Lorsqu'on prend la peine de noter le soir, ne serait-ce que trois choses pour lesquelles on a envie de dire merci, voilà exactement ce qui va avoir un effet non seulement sur notre niveau de satisfaction globale, c'est-à-dire que si on mesure votre bonheur, et puis on vous dit, voilà, à partir de maintenant, vous allez faire ça pendant un mois. Et tous les soirs, donc ça s'appelle un carnet de kiff dans mon vocabulaire, c'est un morceau de papier sur la table de nuit. Vraiment, vous notez trois choses comme ça, sans les développer nécessairement. Hein. C'est vraiment tac, 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 les trois choses pour lesquelles j'ai envie de dire merci. Si on mesure votre niveau de bonheur à l'arrivée, un mois plus tard, vous êtes globalement plus satisfait dans l'expérience de votre vie. Donc c'est très puissant.
C'est ce que vous dites dans 3 kiffs par jour, votre livre paru chez Marabout. Vous parlez de cette spirale du positif.
Alors oui, puisque quand on commence à détecter le positif ou à le repérer ou à l'actionner, ça en entraîne automatiquement derrière. Je vous donne un exemple. Votre adolescent va quitter la maison, vous le voyez passer avec son bonnet sur la tête, 2 options. Soit vous lui dites « tu vas quand même pas sortir habillé comme ça ». Bon, voilà, vous imaginez la suite. Soit vous lui dites
« détendue, fluide, harmonieuse ».
C'est ça, sympathique, chaleureuse. Soit vous lui dites « ton bonnet te va bien » et là,
qu'est-ce que tu es beau, mon fils.
Vous allez récolter un bisou. Ouais. Donc, c'est ça la spirale du positif. C'est qu'il ne faut pas se leurrer. Si on a envie d'engendrer des choses qui, justement, braquent tout le monde dans le même sens, il faut commencer par soi-même.
Vous aussi, Joanne Toledano, vous notez ces petits moments de vie quotidiennement? Quels sont vos outils?
Je n'ai pas de carnet à kiff, mais j'ai un carnet là avec moi et j'ai noté justement la petite astuce et je vais en faire mon carnet à kiff. Merci Florence. Non, j'ai un en termes d'écriture justement, j'écris tous les matins 3 pages. Je ne sais pas si vous connaissez le livre qui s'appelle Libérer votre créativité, qui est vraiment un petit bijou et elle préconise d'écrire 3 pages tous les matins et c'est une sorte d'écriture automatique et je finis toutes mes pages tous les jours par un merci où je me dis merci d'avoir un peu libéré toutes ces choses-là de mon inconscient et en fait c'est une façon de se nettoyer avant de commencer la journée. On nettoie le mental parce que sinon on porte avec nous toute la journée toutes ces pensées, la charge de la veille, la charge de la nuit, etc. Les déposer sur le papier fait que ce qui n'est plus à l'intérieur, ce qui est dehors n'est plus dedans, voilà ce que je voulais dire.
Et donc permet d'être plus réceptif à ce qui va se passer dans
exactement,
votre journée.
Exactement, réceptif, calme, on n'est plus imprégné des sensations et des émotions qui viennent de ces pensées négatives, polluantes, etc. Du coup, on est beaucoup plus libre et créatif.
Vous vous souvenez de cette phrase dans le film Forrest Gump qui disait que la vie, c'est comme une boîte de chocolat que l'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Bon, eh bien, je vous propose d'ouvrir celle d'Antidote parce qu'il n'y a que des petites douceurs à l'intérieur et surtout pas ceux avec de l'alcool dedans, ceux dans lesquels on croquait et qu'on reposait aussi vite.
Non, exactement.
Voici une nouvelle série de Merci à un inconnu. Auditeur et animateur d'Europe 1 vous raconte quelques jolies histoires.
Merci beaucoup.
Merci à vous tous.
Je veux remercier évidemment...
Je ne sais pas exactement à qui, mais je dis merci. Merci beaucoup à tous.
Antidote. Merci à un inconnu.
Bonjour, c'est Julie. Alors moi, le remerciement se place dans le cadre d'un accident de voiture grave que j'ai eu en Corse il y a 20 ans, avec une chute dans un ravin. Enfin, c'était assez spectaculaire. J'étais coincée à l'arrière de la voiture. Les autres passagers ont pu sortir. Mon mari est remonté sur la route pour chercher du secours. Mais les autres passagers essayaient de me sortir de là, ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Et est arrivé un légionnaire. Et cet homme, je veux le remercier, je le remercierai toujours. Il est venu près de la voiture. Il a dit stop, vous la laissez tranquille. Il a gardé la voiture. Il m'a gardé, il m'a protégé et il m'a évité d'être paralysé par des manipulations non expertes. Voilà, sympathique mais pas experte. Et tout cela, on me l'a raconté car j'étais dans le coma et je me suis rendu compte de rien, même la chute dans le ravin, le choc de l'accident, tout ça, j'ai oublié. Le légionnaire, lui, je l'oublie pas, mais ça aurait pu être très grave car j'étais touchée au niveau d'une vertèbre et tout près de la moelle épinière. Et je voudrais le remercier, j'ai jamais rencontré, mais je lui dois d'être en vie aujourd'hui et debout sur mes deux jambes.
Bonjour, c'est Vincent. Aujourd'hui, je voudrais dire merci à une inconnue. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un jour d'automne en 1996. J'étais alors en classe préparatoire, les fameuses maths P. J'avais 20 ans. J'étais tout seul et en larmes sur les marches d'un escalier du lycée Dumont-d'Urville à Toulon. Désespéré de ces études scientifiques que je faisais contre mon gré et où l'esprit de compétition omniprésent me dégoûtait. En plus, C'était le temps des premières amours, celles qui sont inavouées et en plus dans mon cas pour un autre garçon. Situation qui me semblait à l'époque insurmontable et définitivement sans issue. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, persuadée que ma vie ne pourrait pas aller plus mal. Elle s'est approchée simplement. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle n'a même pas cherché à me faire parler de mes problèmes. Elle m'a juste dit « Ne t'en fais pas, ça va aller mieux ». Et le simple fait qu'une inconnue, sans doute étudiante en prépa elle aussi, montre un peu de compassion et d'empathie à mon égard, a transformé ma vision du monde. Même au plus profond de la détresse, je sais qu'il y a des êtres bienveillants. Merci à toi.
Bonsoir, c'est Anne Le Gall. Alors moi, j'ai une pensée chaleureuse pour ceux qui pratiquent la gratitude dans le métro et les transports en commun. Parce que oui, c'est vrai, dans les transports, on est serré, on est pressé, on est debout. Et dans ce contexte, la bienveillance est toujours une bonne surprise. Je remercie donc l'inconnu qui, la semaine dernière, m'a couru après pour me rendre mon bonnet en laine noire qui était tombé de mon sac. Il a quand même fait un détour dans les couloirs du métro. Il a grimpé des escaliers pour moi. Il m'a rendu mon bonnet avec un grand sourire. Et rien que pour ça, je le remercie, ça m'a mise de bonne humeur pour le reste de la journée.
Bonsoir, c'est Caroline Dublanche. L'inconnu auquel je voudrais exprimer toute ma gratitude est un psychanalyste qui était venu parler de son métier dans mon lycée. J'avais 17 ans et j'étais assez tourmentée. Et j'ai été bouleversée de découvrir que l'on pouvait mettre des mots sur ce que l'on ressentait au plus intime de nous-mêmes. Et quelques jours après, sur un coup de tête, je suis allée le voir à son cabinet, sans rendez-vous, car une question me trottait dans la tête. Pourquoi il était devenu psychanalyste? Ma question très directe a dû le surprendre, mais il n'en a rien laissé paraître et il m'a répondu avec beaucoup de sincérité et de gentillesse. Je ne l'ai jamais revu, mais je lui dois beaucoup, car c'est grâce à lui que j'ai trouvé ma voie, aidé à mon tour les personnes qui se sentaient perdues dans leur vie à ne pas perdre espoir.
Bonsoir, c'est Patrick Cohen. Je voudrais remercier une inconnue, qui n'est pas tout à fait une inconnue, puisque c'était ma prof de français du lycée, de seconde et de première, qui nous a fait non seulement découvrir les grands textes de la littérature, mais aussi qui nous a ouvert à la chanson française. Elle était fan absolue de Julien Clerc, elle n'en manquait aucun concert, mais surtout elle nous faisait étudier, entre autres, des textes de Claude Nougaro et nous a ouvert sur des horizons qui me font vibrer encore aujourd'hui et pour cela je lui dois un merci éternel.
Antidote. Merci à un inconnu.
C'est fou comme on se sent mieux après ça. Continuez de nous envoyer vos histoires via les réseaux sociaux avec le hashtag merci à un inconnu. Il y a aussi le message de Christine qui se souvient plus jeune avoir pleuré après une dispute sur les bords du fleuve et de ce propriétaire d'une péniche qui était sorti lui offrir une laine polaire parce qu'il faisait froid. Il l'a invité à se joindre à son dîner d'amis en lui offrant le meilleur, foie gras et champagne. C'était beau, dit-elle, de voir quelqu'un me tendre la main alors que je me sentais si seule.
Europe 1, Antidote.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas
to you.
Noël ne sera jamais Noël sans la voix de Nat King Cole.
Europe 1, Antidote. Anne Cazobon.
Antidote sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 22h et si j'étais vous, je resterais dans le coin car il se pourrait bien que Monsieur David Lynch vienne nous parler de gratitude et ajouter son merci à un inconnu à la liste déjà longue que nous vous diffusons ce soir. Celle des animateurs, des auditeurs d'Europe 1. Oui, c'est aussi ça le miracle de Noël. Avec Joanne Toledano, comédienne, Florence Servan-Schreiber, on passe notre quotidien à la loupe pour y déceler la moindre particule de merveilleux. On apprend à dire merci ce soir, on apprend la gratitude. Florence Servan-Schreiber, vous nous parlez également d'écrire, d'apprendre à écrire un merci, une lettre de merci.
Mais oui, c'est Noël aujourd'hui et alors je vais juste raconter un exercice que j'ai fait pendant un an quand j'ai découvert justement tout ce travail autour de la gratitude. En fait, je n'ai acheté aucun cadeau et ce que j'ai choisi de faire, c'est d'écrire aux gens qui sont dans ma vie pour les remercier d'être dans ma vie. Alors, ce qui me permet peut-être de juste faire la différence entre la politesse et la gratitude. La politesse, c'est voilà, remercier quelqu'un parce que quelque chose était sympa, un service rendu, ou merci pour le week-end qu'on a passé chez toi.
Le repas était délicieux.
Par exemple, la gratitude, c'est un peu différent parce que on va remercier la personne pour l'effet que son action a eu sur nous. Par exemple, si j'ai passé le week-end chez vous, je vais vous dire merci pour ce week-end parce que le mal que tu t'es donné à nous recevoir m'a permis de ressentir à quel point je tiens à notre relation et à quel point c'est précieux pour moi. C'est-à-dire que je dis, lorsque vous faites ceci, voilà ce que je ressens. Et la gratitude, c'est ça. C'est pas tant de dire le gâteau était bon. C'est quand tu cuisines un gâteau avec autant d'attention, ça me touche et je réalise que notre amitié m'est précieuse. Vous voyez, ça va un tout petit peu plus loin. Donc c'est ça la nuance. Alors c'est vrai que donc pendant cette année, j'ai fait ça. Vous savez, il y a un moyen très simple de faire cet exercice. Vous pensez à quelqu'un et vous vous dites, si jamais cette personne n'était plus dans ma vie, qu'est-ce qui me manquerait? Qu'est-ce que je ne saurais pas? Qu'est-ce que je n'aurais jamais appris? Qu'est-ce que je n'aurais jamais vécu? Qu'est-ce qui ne se serait pas passé entre nous ou pour moi? Et à partir de là, vous avez toute la liste de ce pourquoi vous pouvez la remercier.
Et on se rend compte qu'on est façonné de tous nos amis, de tout notre entourage, de toute notre famille.
Oui, et ce que je trouve très intéressant, c'est que en fait, la gratitude et le merci, c'est une expérience physique. Moi, je reviens beaucoup au corps. C'est-à-dire qu'on peut dire beaucoup de merci sans les ressentir, et ce ne sont pas vraiment des merci, on va dire, thérapeutiques, entre guillemets. Et l'expérience du merci, elle se fait vraiment dans le corps. Et le fait de faire cette expérience, de dire « si je n'ai plus cette peur », pourquoi est-ce que ça marche quand on fait ça? C'est parce que lorsqu'on imagine que cette personne qui compte autant pour nous disparaît, on a quelque chose dans le corps. On a cette sensation de la perte, justement, crée de la tristesse. Et du coup, c'est cette tristesse qui nous permet de réagir et de sentir que oui, si je lui dis merci, je vais aller mieux et ça va me faire du bien. Et ça prend un chemin des fois un peu détourné pour pouvoir ressentir l'effet de la gratitude dans le corps.
Je ne sais plus qui disait que la gratitude, c'est la mémoire du cœur.
Oui, et alors c'est vrai que cette année, je l'ai passé avec une boîte de Kleenex, parce que il y a beaucoup d'émotions, ça n'est pas que de la tristesse hein, d'ailleurs, c'est-à-dire que parfois, il y a des choses qui m'ont touchée en pensant à des amis notamment, et en me rendant compte que vraiment j'étais en fait bouleversée par leur rôle. Oui, par leur rôle dans ma vie, non mais c'était vraiment super et que j'avais vraiment de la chance. Et puis au bout de ça, je me suis dit, mais j'ai de la chance en fait. Et ça sert à ça d'aller dépoussiérer un peu tout ça. Alors évidemment, si on fait ça par exemple avec son conjoint, vous imaginez l'intérêt de l'affaire, parce que il faut savoir que notre cerveau ne sait pas éprouver à la fois de la gratitude et du ressentiment. Donc quand on pense à son conjoint, j'en sais quelque chose, je suis mariée depuis 30 ans.
Et vous avez fait une visite de merci à votre conjoint.
Voilà, j'ai fait
conjoint.
Une visite de gratitude à Alex. Mais la première chose à laquelle on pense quand on pense à l'autre, quand on est ensemble depuis très longtemps, c'est pas nécessairement la gratitude.
Ça commence pas
par là et c'est tout à fait normal. Sauf que là, pour une fois, il s'agit justement de mettre tout ça de côté et quand on se connecte à la gratitude, on ne va plus penser aux chaussettes sales, on ne va plus penser à toutes les petites blessures comme ça qu'on peut accumuler. Au contraire, on va se dire quelle est la chance que j'ai dans cette relation-là, et on l'écrit à l'autre, et quand en plus on vient lui dire, là évidemment ça...
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a réagi?
Alors, je lui ai demandé, en l'asseyant en face de moi, donc alors j'ai pris la peine d'écrire, parce que je me voyais mal faire ça en improvisation, hein, c'est quand même assez assez profond, et donc vraiment la question c'était si c'était pas Alex, voilà, si je l'avais pas rencontré
pas lui,
si c'était pas lui, eh bien, qu'est-ce qui me manquerait en fait? Alors il y avait tout un tas de choses, et je lui ai dit deux choses, je lui ai dit, voilà, assieds-toi là, alors faut jamais dire pourquoi on vient, parce que les gens, c'est très intimidant de dire je viens t'exprimer ma gratitude, ça passe pas très bien, le traquenard. Alors je lui dis voilà, assieds-toi là, et puis alors je vais te demander deux choses, la première c'est de pas te marrer, et la deuxième c'est de pas m'interrompre. Donc il a évidemment fait les deux immédiatement. Il s'est moqué de moi à peu près tout du long et il m'a interrompu. Mais c'est vrai qu'il avait sorti une boîte de mouchoirs en papier qu'il avait placée entre nous et je m'en suis servie. Et donc je lui ai lu cette lettre. Évidemment, il était extrêmement touché. Je raconte d'ailleurs dans cette conférence TED. Donc peut-être je vous laisse découvrir en l'écoutant ce que je lui ai dit, parce qu'il y a des choses tout à fait domestiques mais très réelles hein, qu'on retrouve chez des couples, absolument chez tous les couples. C'est ça la vie. En vrai, ensemble, ce sont des petites choses. Mais je dois dire que là, à ce moment-là, nous étions à 25 ans de vie conjugale. C'était un bon exercice à avoir fait. Ouais. C'est-à-dire que ça m'a permis de me rendre compte que malgré tous ses défauts, malgré tous les reproches que je peux avoir à lui faire, bah, c'était le mien. Et que j'y
vous
tenais.
Le choisissiez
oui,
encore aujourd'hui.
Voilà, et que j'y tenais à celui-là. Comme ça, puisque pendant cette fraction de seconde, enfin ces quelques minutes, j'étais vraiment connectée au meilleur de ce que nous sommes. Et il y a aussi de ça, dans une vie de couple, il y a aussi le meilleur de ce que nous sommes, même si, une fois de plus, parce que le négatif fait toujours plus de bruit, on va voir l'autre côté de la médaille.
On passe une très belle soirée de Noël sur Europe 1 jusqu'à 22h. On est ensemble, on parle de gratitude en compagnie de Florence Servan-Schreiber et de Joanne Toledano. Continuez de nous envoyer vos messages avec le hashtag merci à un inconnu sur les réseaux sociaux. Vous savez, tout au long de la soirée, on va écouter ces voix que vous connaissez, que vous entendez sur l'antenne d'Europe 1 et puis des voix d'auditeurs qui viennent très nombreux avec leurs jolies histoires. Et puis si j'étais vous, je resterais dans le coin parce que on nous annonce une interview exclusive de David Lynch. Mais pour l'heure, il est 21h sur Europe 1. On fait le tour de l'info avec vous, Benjamin Lévesque. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Anne, bonsoir à tous. Des fêtes de Noël sous haute surveillance. Près de 100 000 policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés ce soir et demain. Ils assurent la protection autour des lieux de culte et des marchés de Noël. À Paris, un périmètre de sécurité a été mis en place autour de la cathédrale Notre-Dame. Et dans une demi-heure, à Rome, le pape François célébrera la traditionnelle messe de Noël dans la basilique Saint-Pierre. Le Secours populaire lance un appel aux dons pour les rescapés du typhon aux Philippines. Le bilan de la tempête tropicale est encore provisoire. 208 morts et plus de 100 personnes toujours portées disparues. Une panne a paralysé cet après-midi la station de Champs-Rousses dans les Alpes. Environ 150 personnes sont restées coincées dans les télécabines, toutes évacuées une par une par les policiers et sauveteurs. L'opération a duré près de 2 heures. La CFDT en deuil après la mort de Jacques Chérec, figure du syndicalisme et du socialisme dans les années 70. Le père de François Chérec est décédé à l'âge de 89 ans. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, salue son engagement toute sa vie pour une société plus juste. Ça s'est passé à Rennes toute la nuit, de vendredi à samedi. Deux adolescents de 13 et 14 ans ont saccagé une douzaine de salles de classe de leur collège. Ils voulaient se venger de leurs professeurs. Ils sont convoqués dans 2 mois devant le juge des enfants. Les dégâts sont évalués à 20 000 euros par la direction du collège. 10 jours après le drame de Millas, 3 familles se constituent partie civile. Elles veulent savoir où en est l'enquête, quitte à demander des investigations complémentaires. La collision entre un car scolaire et un train dans les Pyrénées-Orientales a fait 6 morts et plusieurs blessés. Dans les Landes, près de 1500 canards abattus. Ils sont soupçonnés d'être porteurs du virus de la grippe aviaire. L'élevage avait été placé cette semaine sous surveillance sanitaire. L'hiver dernier, en France, plus de 4 millions de canards du Sud-Ouest avaient été tués à titre préventif. Il est la personnalité préférée des Français. Jean-Jacques Goldman reprend la tête du traditionnel classement IFOP pour le JDD. L'auteur-compositeur détrône Omar Sy. Le judoka Teddy Riner est 3e. Et à la 5e place, Sophie Marceau est la première femme de ce top 50. Il est 21h02. Vous écoutez la suite d'Antidote avec Anne Cazobon jusqu'à 22h.
Europe 1. Antidote sur Europe 1. Anne Cazobon.
Parfois, la vie ressemble à un fabuleux jeu de pistes. Je dois vous avouer que je n'ai pas une grande culture cinématographique. Pour l'heure, ça n'est pas là que j'ai choisi d'investir mon énergie ni mon temps. Et pour tout vous dire, je ne connais donc pas très bien le travail cinématographique de David Lynch. J'ai vu Les Incontournables, mais ça s'arrête à peu près là. Et je me garderai bien de donner un avis sur le sujet. Je laisserai cela à ceux dont c'est le métier. Non, ce qui m'intéresse chez lui, ce qui m'inspire chez cet homme, c'est la pluralité de ses terrains de jeu. C'est son expression multiple. Quel que soit le message qui le traverse ou qu'il a envie d'exprimer, il trouve toujours un médium pour le faire. Que ce soit sous la forme d'un film, d'un livre, d'une peinture, d'une lithographie, d'un morceau de musique et même d'un meuble en bois, oui, David Lynch est également ébéniste. Il y a quelques années, alors que je m'intéressais beaucoup aux blessés de guerre, que je faisais des reportages, des documentaires sur le sujet, j'avais découvert qu'il avait mis en place aux États-Unis, autour notamment de la méditation, pour les soldats victimes de syndromes post-traumatiques. Il n'y a pas à dire pour tout ce genre de choses, de toute façon, les États-Unis ont quand même 15 ans d'avance sur nous. À l'époque, je répétais à qui voulait bien l'entendre que j'allais rencontrer David Lynch. Je ne savais pas comment, mais je trouvais ça drôle de lancer cette intention. Je blaguais sur ce documentaire que j'allais tourner avec David Lynch un jour, dans 6 mois, demain. Peu importe, ça allait se faire. Et puis de fil en aiguille, j'ai appris qu'il venait régulièrement à Paris. Je me suis préparée à cette rencontre. J'ai commencé à lui écrire une lettre en lui disant que la découverte de la méditation avait transformé ma vie. Par ailleurs, on m'avait informé d'un lieu dans lequel il venait régulièrement quand il se trouvait dans la capitale. Et puis un jour, en plein déjeuner, lors duquel je faisais se rencontrer 2 amis, je me suis levée d'un bond et je suis partie en disant que j'allais rencontrer David Lynch. Je suis repassée par chez moi, j'ai attrapé l'enveloppe rouge dans laquelle se trouvait ma lettre, puis je me suis rendue dans le lieu qu'on m'avait indiqué. Et de manière absolument invraisemblable, toutes les portes se sont ouvertes ce jour-là. C'en était même risible, ce voisin qui se pressait pour faire le 3e digicode. Tous les feux étaient au vert et c'est là que je l'ai repéré, au loin, dans un nuage de fumée de cigarette, qui discutait avec 2 amis. Je me cramponnais à mon enveloppe rouge et debout face à lui et ses 2 amis, je me suis donc lancée dans une explication un peu décousue, confuse en anglais, tellement surprise de réaliser que mon intention avait été entendue et que là, devant moi, il y avait cet homme à la mèche blanche sous laquelle se logeait tellement de matière grise. À ce moment-là, comme pour me sortir de la mare d'excuses et de justifications dans laquelle j'étais en train de m'enliser toute seule, il m'a interrompue et il m'a dit en anglais « Anne, we were waiting for you. Please, have a seat. Do you want a coffee ?» Anne, justement, nous vous attendions. Asseyez-vous. Est-ce que vous voulez un café ? 5 ans plus tard, donc, me revoici face à David Lynch, entre quelques toiles en cours, quelques pinceaux posés ça et là, et une lithographie en préparation devant un 2e café. Entre ces 2 moments, la donne a changé, pour l'un comme pour l'autre, mais comme avec les gens que l'on a l'impression de connaître depuis toujours, nous avons repris la conversation là où nous l'avions laissée. Et forcément, pour Antidote sur Europe 1, je lui ai demandé quel était son rapport à la gratitude.
En fait, dans un sens, je remercie la vie en tant que telle. Je suis plein de gratitude d'être un humain. On dit qu'on aurait pu prendre plusieurs aspects corporels dans le champ de la relativité, mais le corps humain est très important parce qu'il a le potentiel de l'éveil, de l'immortalité, et chaque être humain peut s'éveiller. Tout n'a qu'à se révéler à l'intérieur. Et le secret, c'est que tout se déplie à l'intérieur, par la transcendance. Vous descendez jusqu'au niveau le plus profond de la vie, c'est-à-dire cet océan de conscience pure, de champ unifié, ce puits de connaissance, le soi supérieur avec un grand S. Tous ces noms qui parlent de la même chose. Ça a toujours été là, ce champ immense. Et dans ce champ de la relativité, chaque chose a une durée de vie, certaines longues, d'autres plus courtes. C'est un absolu qui n'est pas relatif, qui se trouve sous le champ de la relativité. C'est ce dont on fait l'expérience quand on transcende, et c'est ce qu'il vous faudra traverser pour libérer votre plein potentiel.
Alors forcément, avec David Lynch, on ne va pas passer à côté de la méditation transcendantale, hein, élément incontournable et fondateur dans sa vie. Dans un livre assez peu connu en France, David Lynch parle de créativité et de ses idées. Ça s'appelle « Mon histoire vraie », c'est paru aux éditions Sonatine. Et je le recommande d'ailleurs chaudement à ceux qui s'intéressent au processus créatif et aux artistes en général, parce que toutes ces idées géniales qui lui viennent, c'est dans cet espace de méditation qu'elles gravitent.
Pour moi, désirer une idée, c'est comme mettre un appât au bout d'une ligne, d'un crochet. Quand on a envie de quelque chose, on se concentre dessus. On dit d'ailleurs que l'on crée notre réalité. Donc on désire, on se concentre, on met toute notre attention sur ces idées que l'on souhaite attirer. C'est mettre un appât au bout de ce crochet et le plonger au fond de l'eau. Et là, il faut être patient parce qu'on ne peut pas forcer les idées à venir, mais on peut se préparer à leur arrivée, créer un espace dans lequel elles adoreraient être pêchées. Donc le crochet est au fond de l'eau avec un appât d'envie, de désir, et les poissons vont commencer à s'approcher. Vous allez les attraper. Certains, vous n'aimerez pas trop, mais de temps en temps, oh mon Dieu, là, vous attraperez une idée dont vous tomberez amoureux. Quand vous attrapez ce poisson, cette idée dont vous êtes amoureux, cela va attirer encore plus d'idées de la même veine. Ces idées peuvent ensuite révéler à l'intérieur de nous une idée de scénario, de peinture ou de meuble ou quoi que ce soit d'autre.
Et est-ce qu'il y aurait eu dernièrement quelques poissons avec lesquels David Lynch serait tombé en amour ?
Maintenant, je pêche des idées pour mon nouveau projet. Twin Peaks était composé de beaucoup de poissons que j'ai adorés, mais maintenant, c'est terminé. Je me mets en route pour essayer d'attraper d'autres idées.
Bon, pour tous les fans, j'aurais quand même essayé, hein. Mais pour l'heure, visiblement, rien ne filtre sur d'éventuels projets ciné. Il faut dire qu'il s'exprime sur tellement de terrains différents. Et comme les grands génies, c'est avant tout l'humilité qui le caractérise.
Tout le monde est un artiste aux multiples talents. Et chacun a le potentiel de s'exprimer dans tous les domaines. Avant, on disait que si vous étiez connu pour quelque chose, il ne fallait pas s'éparpiller. Mais maintenant, de plus en plus de gens, par exemple, si quelqu'un chante, fait de la musique, eh bien, il fait aussi de la peinture ou des vidéos, il étudie la faune en Afrique. On peut faire beaucoup de choses. L'essentiel est d'aller vers ce qui nous intéresse. Et c'est ça, la vie.
Life. Et puisque ce soir sur Europe 1, Antidote est consacré à la gratitude, David Lynch ne pouvait pas repartir sans avoir lui aussi adressé un merci à un inconnu.
En fait, il y a beaucoup de choses qui ont influencé le cours de ma vie. Mais j'imagine que quand même, ce coup de fil que j'ai reçu en 1968 de George Stevens Jr. et Tony Villani me disant « David, vous venez juste de remporter une bourse de réalisateur de films indépendants pour le film dont vous nous avez envoyé le scénario. C'était quelque chose. Je pensais que ça n'arriverait jamais. Et puis finalement, c'était là. C'était magnifique.
Et la suite de l'histoire, on la connaît.
Antidote sur Europe 1.
Anne Cazobon.
Elle disait que la seule chose qui soit meilleure que chanter, c'est chanter encore plus. Voici Ella Fitzgerald avec Let It Snow dans Antidote sur Europe 1.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in a storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is
we're slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Good night. How I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in a storm. But if you really hold me tight, oh, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Bien une voix qui nous met en joie, c'est celle d'Ella, Ella Fitzgerald bien sûr, avec Let It Snow, que l'on considère comme une chanson de Noël, à tort. Oui, attention, petite info pour briller ce soir à table entre le fromage et la bûche, Let It Snow est en fait une chanson d'amour qui à aucun moment, j'ai bien regardé, ne mentionne la fête de Noël. Mais bon, ça nous va bien l'amour, hein, parce que l'amour, il en est question, oui, ce soir dans Antidote spécial gratitude.
Europe 1, Antidote. Anne Cazobon.
Dans Antidote jusqu'à 22h sur Europe 1, vous le savez, on essaye, comme le disait Christiane Singer, de devenir les témoins de la merveille du monde et non les témoins perfides et consentants de son naufrage. Parce que pour ça, il suffit d'allumer les chaînes d'infos en continu. On vous laisse choisir d'ailleurs votre camp pour ce soir, du moins. Nous, on a opté pour la gratitude, l'optimisme. Jusqu'à 22h, en compagnie de Florence Servan-Schreiber et de Johan Toledano, on apprend à dire merci depuis tout à l'heure. Et merci, on peut le dire à voix haute, envoyer un SMS ou encore une carte de merci. Bonsoir Isabelle Almeras-Hérault.
Oui, bonsoir Anne.
Alors je voulais partager avec nos auditeurs ce joli coup de cœur que j'ai eu pour cette boîte à merci que vous avez créée avec l'arbre sous la lune. Derrière ce joli nom se cache vous, Isabelle Almeras-Hérault, et Laurence Verrier. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce projet? Qu'est-ce que c'est que cette boîte à merci?
Alors, avec Laurence, on a créé l'Arbre sous la Lune parce qu'on accompagne des femmes, des jeunes filles, des enfants pour des ateliers et puis des accompagnements individuels. Et on a beaucoup travaillé sur la gratitude et il nous manquait un support. Et on s'est dit, tiens, et si on faisait des cartes de merci? Alors, on avait commencé petitement avec des cartes qu'on imprimait nous-mêmes. Et puis, on s'est dit que peut-être que des cartes à offrir dans un joli coffret en expliquant un petit peu ce qu'est la gratitude pour nous, eh bien, ça pourrait être chouette. Donc, on a créé ces cartes de merci comme ça, avec l'aide d'une dessinatrice de notre secteur qui s'appelle Nathalie Caron. Donc, on a 7 cartes de merci différentes dans un petit boîtier à colorier et à offrir. Donc à envoyer par courrier ou alors à donner, à glisser dans
un sac, dans une poche.
Dans une poche, dans un livre ou alors pour écrire à quelqu'un qui est décédé et à qui on a envie de dire de merci. Mm-hmm. Donc ça, on l'a déjà testé plein de fois auprès des femmes, auprès des jeunes filles. Et c'est vraiment un acte fort, un acte qui fonctionne bien et qui fait très plaisir et qui... On prend plaisir aussi à le faire puisqu'on prend ce temps de colorier, de choisir les bonnes couleurs et puis d'écrire derrière la carte, parce que ce sont comme des cartes postales. En fait.
Elles sont très jolies, ça marche très bien avec les enfants et les grands-enfants.
Tout à fait, avec les deux. On a animé des ateliers avec des enfants, ils ont adoré ça, il y avait aussi leurs parents. On utilise ces cartes lors de nos ateliers des femmes aussi, et des jeunes filles aussi. Et ça, oui, c'est un moment, en même temps, c'est un moment aussi de méditation pendant lequel on se met en rapport avec la personne à qui on a envie d'offrir cette carte-là. C'est vraiment un acte très fort et puis personnel, quoi.
Un merci inconditionnel. C'est un joli cadeau de Noël en tout cas, hein, mais aussi pour toute l'année. Voilà, des petites cartes à envoyer, à colorier. C'est vraiment très joli. On peut se les procurer sur votre site larbresouslalune.com.
C'est ça. Et puis à la petite librairie de Mornant, c'est un petit village entre Lyon et Saint-Étienne.
On les embrasse.
La librairie Lulu. Voilà.
Merci beaucoup Isabelle Almeras Hérault, larbresouslalune.com pour se procurer cette boîte à merci.
Merci beaucoup Anne.
Europe 1, Antidote. Anne Cazobon.
C'est vrai que ça fait du bien de dire merci, un vrai merci du fond du cœur, exprimé à quelqu'un qui vous a rendu une fière chandelle, qui a fait preuve d'intégrité. Et l'intégrité, vous savez, c'est ce que l'on fait quand personne ne regarde et ce que l'on fait pour quelqu'un qui ne peut rien nous apporter. Et vous, quel inconnu avez-vous envie de remercier ?
Merci.
Thank you.
Merci, peuple de France.
Merci.
Merci. Merci à vous.
Antidote. Merci à un inconnu.
Bonsoir, c'est Léna Morna. Alors l'inconnu que je voulais remercier, ce sont en fait des inconnus. On est parfois, je vais pas plomber ce réveillon, mais on est parfois confronté à la maladie. Et les inconnues merveilleuses, parce qu'elles sont souvent des femmes que je voulais remercier, ce sont les infirmières. Toutes celles qui prennent soin de nous quand on est malade et qui prennent soin aussi des familles, parce qu'autour d'un malade, il y a des familles. Alors vous êtes peut-être dans cette situation, n'hésitez pas à les remercier. C'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui.
Bonsoir, c'est Estelle et je vais vous faire un slam pour remercier cet inconnu virtuel rencontré sur le net. Merci Gabriel, inconnu virtuel, connu sur un site de rencontre virtuelle au moment d'un grand désert spirituel cherchant l'amour et son miel. Correspondance d'une année essentielle, ton écriture, une profonde guérison, chaque mot nous rapprochait à tâtons. En jugement, nous nous confions sur nos rêves, nos doutes, nos passions. Tu as été l'homme sans âge, celui qui est devenu sage, le premier que j'ai connu sans violence, le premier avec qui je n'avais plus de méfiance. Une année d'écriture pour renaître, une année pour devenir et être. Après toi, j'ai aidé devenir entière, écrire, chanter, danser avec la terre. Merci, ange Gabriel des télécommunications. Tu as joué ton rôle de guérison, l'homme et la femme en communion. Oui, c'était possible. Quelle bénédiction. Ou que tu sois bâtisseur du monde inachevé, homme virtuel dont l'écriture m'a sauvé, je t'envoie ma profonde gratitude dans cette onde qu'on appelle une pensée inconnue virtuelle. Je l'ai été. À cet instant, je m'appelle Estelle Penin et nous voici bien réels dans cette réalité où nous pourrons peut-être nous rencontrer.
Bonjour, c'est Anissa. Je voulais profiter de ces fêtes de fin d'année pour remercier un prof d'histoire que j'ai rencontré pendant mon parcours scolaire à une époque où je me posais beaucoup, beaucoup de questions sur ce que je voulais faire dans la vie, sur la durée de mes études. Et j'ai pris un peu peur en pensant ne pas y arriver. Et ce prof d'histoire m'a convoqué un jour et m'a dit « Tu sais Anissa, ce n'est pas une course de vitesse. Chacun part du point de départ pour aller vers son objectif. » Si tu roules en deux chevaux et si l'autre est en Ferrari, c'est pas grave, l'essentiel c'est d'arriver au bout et peu importe le temps que vous y mettrez. Voilà, donc cette phrase je m'en souviens, aujourd'hui je la dis à ma fille et elle m'a fait beaucoup de bien cette phrase et je pense que grâce à lui on monte les marches les unes après les autres et ça évite de se casser la figure.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Maxime Switek. Alors moi, je ne vais pas vous parler d'un inconnu, mais de deux inconnus que j'ai croisés totalement par hasard à New York. C'était en 2012, il y a 5 ans. J'étais en vacances là-bas. Au départ, l'histoire n'est pas tellement drôle parce que j'avais un gros pépin de santé qui m'avait paralysé la moitié du visage. J'ai passé plusieurs semaines avec la moitié du visage paralysé et je me suis baladé en vacances à New York avec donc une gueule, pardon de l'expression, un peu tordue. J'étais pas au top de mon moral et je me retrouve dans un restaurant avec ma femme et arrivé dans ce restaurant, je me rends compte qu'il y a à peu près la moitié, voire les trois quarts de la carte que je ne peux pas manger parce que je suis impossible de manger normalement à l'époque. Enfin bref, et là, on essaie malgré tout de trouver quelque chose que je peux avaler dans ce restaurant. Et à côté de moi, il y a deux inconnus, deux latinos, deux armoires à glace tatouées de partout qui faisaient peur à peu près à tout le restaurant. Qui me regardent pendant tout le repas, qui comprennent que j'ai un petit souci et qui ne nous disent rien. Et à la fin du repas, ils se lèvent tous les deux, ils sortent une énorme liasse de billets, ils nous regardent, ils prennent 3-4 billets, ils les lancent sur la table et disent « le repas, c'est pour nous ». Là, le serveur arrive, il hallucine, il ne comprend pas ce qui est en train de se passer, les deux gars lui expliquent. Et lui, n'en revenant pas, il appelle absolument tous les serveurs, tous les clients du restaurant. Moi, qui essaie d'être un tout petit peu discret, avec ma gueule cassée, eh ben, je me suis retrouvé à me prendre une belle affiche en plein milieu du restaurant. Au moins, on a beaucoup, beaucoup rigolé. On a pris des photos avec absolument tout le monde. Ça m'a redonné plein de morale. Et je remercie ces deux inconnus que je n'ai évidemment plus jamais recroisés.
Antidote. Merci à un inconnu.
Continuez de nous envoyer vos belles histoires avec le hashtag Merci à un inconnu sur les réseaux sociaux. Et puis sinon, au cas où, hein, je voulais quand même vous dire que j'avais créé une adresse mail, laréponsedelinconnu@gmail.com. Bah oui, si vous vous reconnaissez dans l'une de ces histoires, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, on transmettra. Je me suis dit qu'il fallait ouvrir la porte à cela aussi, qu'on pouvait pas juste envoyer des bouteilles à la mer. Qui sait, on va peut-être organiser des retrouvailles et des merci en direct.
Europe 1. Antidote. Anne Cazobon.
Lui, il n'a pas oublié nos chaussures sous le sapin, puisqu'il y a déposé le dernier extrait de son album « À nos amours », réalisé par Calogero. Voici Julien Clerc sur Europe 1. On attendait Noël.
Avoir 5 ans au soleil, avoir le temps d'être éternel et croire au Père Noël qui descendra du ciel. Est-ce que tu te rappelles, la vie était belle, on attendait Noël, on attendait Noël, Noël. Avoir 5 ans au soleil, avoir les yeux pleins d'étincelles et lancer des appels en direction du ciel. Oui, je me rappelle, la vie était belle, on attendait Noël, on attendait Noël, Noël. On ne vit plus sous le même toit, on ne fait plus de petites croix, la vie passe, nous ne sommes plus des enfants. Mais en installant l'étoile, c'est à nous que je pense, je retombe en enfance.
Claire, qui retombe en enfance et qui se remémore les souvenirs autour du sapin. C'était « On attendait Noël » sur Europe 1. C'est vrai que ce temps de Noël vient chatouiller notre enfant intérieur, le petit garçon, la petite fille que nous étions. Parfois, cela peut nous remplir de joie. Et puis parfois, ce temps-là aussi peut venir ouvrir des endroits moins confortables, plus nostalgiques, voire mélancoliques. Et c'est justement pour cela qu'on est ensemble, jusqu'à 22h, à siroter entre la dinde et la bûche. Cet antidote de Noël, spéciale gratitude. À tout de suite.
Europe 1. Antidote. Anne Cazobon.
Quelle joie de partager ce temps de Noël ensemble sur Europe 1. Antidote se poursuit jusqu'à 22h. On parle de gratitude en compagnie de Florence Servan-Schreiber et de Joanne Toledano. Alors Joanne, je me tourne vers vous, vous êtes comédienne. Vous jouez en ce moment votre spectacle au Feu de la Rampe à Paris. Votre spectacle qui s'appelle Lego, mon jeu préféré.
Tout à fait.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce chemin initiatique et de quoi parle le spectacle? C'est-à-dire comment est-ce que vous avez réussi à transmuter ce parcours que vous nous racontiez en début d'émission et comment vous mettez ça en scène?
Alors le spectacle raconte l'histoire d'une jeune femme, Olivia, qui lors d'une danse en plein milieu d'un mariage dans sa famille, tombe, elle fait une chute en plein milieu de cette danse alors que toute sa famille est autour d'elle, l'applaudit, l'encourage, elle tombe. Et suite à cette chute, elle se pose les questions, d'abord de façon tout à fait basique, qu'est-ce que j'ai, de quoi je suis malade, etc. Donc elle va voir, d'abord elle entreprend un parcours classique, entre guillemets, donc elle va avoir un gastro, parce qu'apparemment ça vient du ventre, etc. Et petit à petit, elle se rend compte que c'est pas forcément physique ou pathologique, et elle va faire des rencontres qui vont l'emmener petit à petit sur un autre chemin qui est celui de la connaissance de soi. Et en fait, la guérison va passer par un chemin thérapeutique, un chemin de développement personnel. Et du coup, on raconte un petit peu ce chemin avec les obstacles qui peuvent être...
Et qui peuvent être dans la famille, parmi les
voilà.
proches et peut-être
tout à fait
tout droit en face, papa ou maman.
Et toi, tu as des réponses pour un nouvel emploi ? C'est dégueulasse, avec tout ce qu'on a investi dans ces diplômes. Quand je pense que tu as quitté ce travail magnifique, oui, toute la journée au cabinet, alors au moins ça rentrait. Écoute, ma chérie, je sais que c'est peut-être pas le moment, mais voilà, je dois te dire. Tu sais que ton père part bientôt à la retraite, donc nous avons besoin de l'argent de ce loyer que tu n'as jamais pu payer. Alors, on a trouvé une petite solution. Ton père et moi, on te donne 3 mois pour quitter l'appartement, trouver un mari et rentrer dans une boîte.
Rentrer dans une boîte, on est fort en France hein, pour mettre les gens dans des boîtes.
Oui, je crois qu'on est fort un petit peu partout en fonction des milieux, du milieu un peu socio-culturel dont on vient. C'est aussi une histoire de famille autant qu'une histoire de pays. Et c'est vrai qu'avec ma co-auteure Audrey Nataf, avec qui on a créé ce spectacle... On avait un petit peu le même profil, c'est-à-dire qu'on venait de ces familles assez traditionnelles, traditionalistes même, et on avait entrepris des études et une carrière qui en fait faisait plaisir à cette lignée et plus qu'à nous-mêmes. Du coup, on s'est retrouvé à un moment donné de nos vies où on avait chacune de notre côté entrepris un travail sur soi et en même temps on avait un besoin pathologique de s'exprimer artistiquement. Donc elle voulait écrire et mettre en scène et moi je voulais écrire et jouer et du coup on a décidé de sortir de la boîte ou en tout cas de transmuter la boîte d'ouvrir cette boîte et de faire sortir la danseuse de la boîte qui était bien fermée, verrouillée jusque là.
La danseuse, la yogi, celle qui se met à manger des graines, des fruits, celle qui fait des stages de développement personnel.
Exactement,
aussi.
Exactement, tout à fait, et qui petit à petit découvre un petit peu, chaque jour un peu plus sur elle-même. C'est vraiment rentrer à l'intérieur de soi, connecter l'enfant intérieur, et petit à petit, Enfin, ce chemin-là, moi, ça me donne l'impression de rentrer dans une pièce où il fait tout noir, où dans le noir, il y a des objets par terre, il y a tout un tas de choses et on se casse la figure, on tombe, on se relève tant bien que mal. Mais en réalité, il suffit de trouver l'interrupteur, d'allumer la lumière et on verra les obstacles pour pouvoir les contourner, les surmonter, etc. Donc ces guides-là, ces thérapeutes sont un peu des personnes qui vont montrer où se trouve l'interrupteur, aider à allumer la lumière et petit à petit... avancer dans ce chemin.
C'est Adin Gavalda, je crois, dans un roman qui disait « Il faut savoir descendre quelques marches de plus pour trouver l'interrupteur ».
Exactement.
Il y a aussi le fond de la piscine pour donner l'impulse et remonter à la surface. Florence Servan-Schreiber, il faut toujours passer par ces épreuves de la vie pour s'ouvrir à soi, pour s'ouvrir à ce sentiment de gratitude envers la vie ?
Alors, je ne sais pas s'il le faut, mais en tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que nous allons tous traverser des moments comme ça. Donc, quitte à les traverser, autant savoir que de l'autre côté, lorsque l'on a pu synthétiser, lorsque l'on a pu comprendre, lorsqu'on a pu se relever, il y a toujours quelque chose de formidable à apprendre sur soi. Donc, à la fois, je ne le souhaite à personne, mais comme personne n'en fera l'économie, c'est une bonne nouvelle. Tous ces autobus que nous allons nous prendre et que nous sommes déjà pris dans la figure servent à ça aussi. Donc, on peut même remercier ces autobus-là.
Alors justement, quand on est au fond de la tempête, on peut parfois se sentir un peu seul. Vous nous dites que la gratitude peut peut-être nous sauver de ce mal du siècle, la solitude.
Alors, le plus nous éprouvons de gratitude, plus nous nous sentons reliés. C'est ça l'histoire, c'est-à-dire que la gratitude, c'est vraiment la capacité que nous avons à reconnaître tout ce qui provient de l'extérieur de nous et qu'il nous est offert de vivre. Donc ce sont des choses que peut-être des gens ont fait, des situations de la vie dans lesquelles nous nous sommes retrouvés. Si on est croyant, et bien en effet on s'adresse à quelqu'un là-haut en pensant que il ou elle d'ailleurs a beaucoup à voir dans la manière dont on se sent. Et donc dès lors que nous ressentons ça, on se sent moins seul. Oui, c'est pas en fait on ne l'est pas seul puisque nous sommes tous connectés les uns aux autres, mais on reconnaît les liens que l'on entretient et de tout ce qui provient de l'extérieur de nous.
Joanne Toledano.
Oui, en fait, ce que je pense, c'est que quand on est dans la gratitude, on est dans l'amour. C'est-à-dire que ça va tout droit, c'est le cœur qui parle. Dès qu'on dit merci, même, je me rappelle d'une thérapeute que j'avais vue et qui, je parlais d'un gros chagrin de cœur et j'étais là dans la colère et elle me disait, mais dis merci, dis merci. Mais comment veux-tu que je dise merci? Je ne lui dirai jamais merci.
Ah, il nous énerve quand elle dit ça, c'est vrai.
Je ne peux pas dire merci, regarde. Elle me dit, just say thank you. Elle était américaine. Just say thank you. Thank you. Thank you. Et donc, je renvoyais le gars juste après qui disait des erreurs et je disais, thank you. Thank you. Mais en réalité, c'est pas le dire. C'est à ce moment-là, le dire avec conviction. Et encore une fois, ça vient réveiller quelque chose dans le cœur et dans le corps. Et quand on est dans le cœur, toutes les tensions se relâchent et du coup, on ouvre les bras.
Jusqu'à 22h, on le dit dans toutes les langues, thank you ou merci. Antidote spécial gratitude sur Europe 1. Et dans la playlist d'Antidote, il n'y a que des tubes de Noël. Alors forcément, il y a Bobby Helms.
Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air.
Bobby Helms et son Jingle Bell Rock dans Antidote sur Europe 1. On revient tout de suite pour vous parler de gratitude.
Antidote sur Europe 1.
Anne Cazobon.
On continue
de s'inspirer les uns les autres dans Antidote sur Europe 1. Jusqu'à 22h, on évoque les bienfaits de la gratitude et comment la cultiver au quotidien. Et notre chance, c'est d'avoir Florence Servan-Schreiber avec nous. Comment vous dire, dans les monsieur et madame, ce serait un peu madame bonheur, vous voyez, hein, parce que le bonheur, on court après, c'est ce que l'on cherche tous finalement. Dans votre livre d'ailleurs, 3 kiffs par jour, Florence Servan-Schreiber, vous nous dites qu'être heureux, c'est être amoureux de la vie.
Pas uniquement de la vie, mais de sa vie à soi, parce que de toute façon, c'est celle-là la nôtre. Donc, autant l'apprivoiser, autant l'honorer, autant en faire son affaire. Parce que là où nous souffrons souvent, c'est quand nous avons la sensation, l'impression, en tout cas l'illusion, que ça serait mieux ailleurs.
Alors, quand vous nous parlez des kiffs, vous parlez de plusieurs familles de kiffs.
Plusieurs familles de kiffs.
Mais il y a les kiffs que l'on s'offre, les kiffs à deux, les kiffs à plusieurs. Comment est-ce que l'on reconnaît un kiff dans sa vie ?
Un kiff, c'est un plaisir pour lequel on a envie de dire merci. C'est ça la définition. C'est-à-dire que c'est vraiment de la gratitude. Ça n'est pas juste du plaisir. Sinon, c'est du plaisir. Et le plaisir, c'est sympa. On en vit plein. Tout ça, ça passe. C'est génial. Mais ça ne s'accumule pas, les plaisirs, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que c'est terminé, c'est terminé. Et ce qui va transformer, c'est vrai, un plaisir en kiff, c'est d'ajouter cette toute petite nuance qui est de dire pour ça, merci. Et c'est là que l'on reconnaît que l'on a de la chance d'avoir vécu ça. C'est là que l'on reconnaît que probablement il y a eu d'autres forces en jeu qui nous ont aidés à vivre un truc pareil. Donc c'est beaucoup plus riche, tout simplement. Et là, c'est à partir de là où ça commence à s'accumuler dans notre organisme, dans notre mémoire, dans notre physiologie et où on se sent plus riche, en fait.
Pourquoi est-ce que c'est pas inné, la gratitude ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la cultiver, d'apprendre, même avec vous, avec vos livres, avec les ateliers que vous animez ?
Oui, alors d'abord, il y a des natures très différentes. Donc il y a des gens pour lesquels c'est complètement naturel. Il y a des gens que vous croisez qui sont en effet tous les émerveillent, ils remercient pour tout, ça leur vient très très naturellement. Moi, je veux juste parler et donner de l'espoir à ceux d'entre nous, j'en fais partie, pour lesquels ça demande un tout petit peu plus d'effort. Et pour lesquels, parce que nous avons des inquiétudes, parce que nous avons des préoccupations, parce que nous avons des doutes, parce que c'est compliqué d'être soi quand même, eh bien, à tous ces gens-là, en effet, de savoir que mécaniquement, on peut, par ce petit exercice tout simple, hein, qui est de dire, mais finalement, merci pourquoi aujourd'hui, voilà, c'est journée de Noël, enfin quand même, à quoi et à qui aurait-on envie de dire merci ? C'est là où on se rend compte que finalement, c'est pas si mal. Et pas si mal d'être soi, et pas si mal d'être à l'endroit où on est, en fait.
Vous nous dites qu'il faut aussi surprendre son cerveau, tout ceci se passe là-haut ?
Alors, absolument, ça ce sont mes nouveaux travaux. J'ai créé un nouvel atelier qui s'appelle « Surprendre son cerveau ». Pourquoi ? Parce que le cerveau, en fait, il est tout puissant, il prend toutes les décisions qu'il veut. Néanmoins, on peut l'orienter. Et on peut, on le sait de plus en plus grâce aux neurosciences, grâce à la psychologie positive, on sait que en mettant notre intention sur certaines choses, en adoptant certains comportements, on va pouvoir reprendre un petit peu le dessus. Et ce sont des conférences expériences que j'ai créées, donc je tiens absolument à ce que les gens fassent l'expérience de ce dont je parle immédiatement sur place, et notamment éprouver de la gratitude. Vous savez que éprouver de la gratitude sans l'exprimer, c'est comme d'emballer un cadeau sans l'offrir.
Oui.
Quand on le voit comme ça, on se rend compte que c'est parfois de l'énergie un peu perdue. Donc autant aller jusqu'au bout du geste et autant justement aller exprimer ces choses-là. Et ça, ça va surprendre notre cerveau parce que comme c'est pas dans ses pratiques naturelles, on va plutôt voilà retenir son petit univers à soi. Ça fait partie des choses qui vont prodigieusement ouvrir le monde qui est le nôtre. Et la perception que nous avons, la possibilité que nous avons d'attraper des choses qui se passent autour de nous et qui sont formidables.
Prendre son cerveau en embuscade.
Et voilà.
C'est ça qu'on vous propose ce
Exactement.
Soir dans Antidote. Je vous propose aussi de retrouver nos héros du quotidien, hein, ceux dont l'exemplarité de l'action peut en inspirer d'autres avec le hashtag merci à un inconnu. Envoyez-nous vos belles histoires, arrosez la toile de ces bonnes ondes. Elle en a tellement besoin, la pauvre. C'est Victor Hugo qui écrit. Oui, c'est toujours chic de citer Victor Hugo dans une émission. Et puis, il y a ceux que l'on croise, que l'on connaît à peine, qui vous disent un mot, une phrase, vous accordent une minute, une demi-heure et change le cours de votre vie.
Donc merci pour ça.
Merci.
Merci.
Thank you, merci.
Merci.
Antidote.
Merci à un inconnu.
Bonsoir, c'est Isabelle Quenin. L'inconnue que je voudrais remercier, c'est cette femme, hyper élégante, parisienne. C'était un matin, j'allais à la radio, il faisait un temps épouvantable. Il pleuvait des cordes, c'était affreux. En sortant du métro, je savais que de toute façon, j'allais arriver, je serais rincée. À une époque où tout le monde est sur son téléphone ou regarde le bout de ses chaussures en courant après le temps, et ben cette dame, qui n'était pas toute jeune, a pris le temps déjà de voir que j'allais ressembler à une serpillière et m'a proposé un petit coin de parapluie. Alors, je ne sais pas si c'était son chemin, puisqu'elle m'a demandé où j'allais moi. Je ne lui ai pas demandé où elle allait, elle. Mais en tous les cas, elle m'a accompagnée tout le long de l'avenue Montaigne. Et elle s'est même détournée pour m'accompagner jusqu'à la porte d'entrée d'Europe 1, rue François 1er. Et en me faisant un grand sourire, on s'est juste dit au revoir. Bah, je ne sais pas, mais ça m'a fait passer une super journée, quoi.
Bonjour, je m'appelle Mélissa. Et aujourd'hui, je voudrais remercier un inconnu que j'ai rencontré il y a bien longtemps. Je ne connais pas son nom. J'ai été enfant et il se trouve que c'était la semaine avant Noël. J'étais hospitalisée. Je souffrais d'une petite hernie que j'avais depuis la naissance. Et donc, pour la première fois, j'ai dû retourner à l'hôpital. Et ma famille ne pouvait évidemment pas m'accompagner. Et quand je me suis réveillée, j'étais donc en salle de réveil. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc, l'anesthésie avait fait un effet, je pense, très fort sur moi. Et j'ai été très perdue. J'ai beaucoup pleuré. Personne ne m'a entendu jusqu'à ce qu'arrive un petit garçon qui, je pense, du couloir avait capté ma détresse et il est venu jusqu'à moi pour me demander ce dont j'avais besoin. Et très très émue, je lui ai juste demandé un verre d'eau. J'arrivais pas à bouger parce que j'avais été opérée au niveau du ventre, donc c'est une opération très très lourde. Et ce petit garçon qui devait avoir peut-être 2-3 ans de plus que moi j'avais 6 ans, lui il devait avoir 8 ans, est allé me chercher ce petit verre d'eau. Il n'y a toujours personne qui nous entendait, ni infirmière, ni médecin. Et il m'a apporté cette petite chose fraîche. J'ai réussi à me lever, à sentir que mon corps était toujours là. Et je n'ai jamais oublié cette personne. C'est jusque-là, pour moi, les petits garçons, c'était un peu les méchants qui vous couraient après à l'école. Et c'est devenu un peu un symbole de cet héroïsme tout simple, là, d'avoir entendu cette détresse. Et je pense régulièrement à lui, et surtout là, dans cette saison, juste avant Noël.
Bonsoir, c'est Raphaël Duchemin. Je voudrais adresser un merci à un monsieur que j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années. J'étais jeune journaliste à l'époque, j'étais allée le rencontrer dans sa ferme. Il faisait de l'armagnac, et cet homme-là, je me suis assise dans sa cuisine avec lui. Il m'a parlé de sa manière de faire de l'armagnac, de sa manière d'aimer finalement les gens. Il me disait, tu vois petite, l'armagnac, c'est comme une femme, il faut l'aimer, il faut la chérir. Et cet homme-là, quand j'ai des doutes sur mon métier, quand j'ai des moments où je flanche, je pense à lui parce que je me dis que c'est encore une des belles raisons qui font que être journaliste aujourd'hui, j'ai encore envie. Donc je voudrais vraiment le remercier parce que ce sont des moments rares, des moments humains et des moments qui comptent pour toujours.
Bonjour, c'est Philippe Vandel, et pour ma part, l'inconnu que je voudrais remercier, je connais même pas son nom, juste son prénom. C'était sur mon ancien lieu de travail, j'étais venu en scooter comme d'habitude, et j'avais laissé les clés sur le scooter, malheureusement quelque chose que je fais très souvent. Et quand je sors le soir vers 5, 6, 7 heures, il y avait un type qui était là, et qui me dit, il est à vous le scooter ? Je dis, ben ouais, pourquoi il me demande ça ? Parce qu'en fait, vous aviez laissé les clés dessus, me dit-il, et les voici. Et la personne avait attendu que je revienne, sans me connaître, il savait pas que c'était mon scooter. Il y a zéro notoriété là-dedans, puisqu'il savait pas qui avait déposé ce scooter. Il était arrivé, il avait vu les clés, il l'avait gardé, il m'a dit « Moi, je roule à scooter et j'aurais bien aimé qu'on me rende ce service. » Alors, je suis resté en attendant que vous veniez avec les clés du scooter. Et j'ai pu que lui dire merci. Je dis « Comment vous appelez ?» Il m'a dit « Je m'appelle Mohamed. Je bosse ici sur un chantier à côté. » Et il est parti dans la nature. Alors, s'il nous écoute, eh bien, je le remercie et j'oublierai jamais cette histoire.
Antidote. Merci. Un inconnu.
Et moi, je n'oublie pas l'histoire de Nadine qui se souvient de ce monsieur croisé dans le métro quand elle avait 20 ans qui lui avait dit « Mademoiselle, je vous demande de toujours garder ce regard que vous posez sur la vie. »
So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. So this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones.
is over if you want it. La guerre est finie si vous le voulez, si vous le décidez. C'est ce que nous dit John Lennon. Un message qu'avec Yoko Ono, en 1969, ils avaient écrit sur des panneaux d'affichage dans 11 grandes villes à travers le monde. C'est vrai qu'il y a ces guerres que l'on mène envers soi-même aussi, hein, à l'intérieur, tout seul, comme des grands. Oui, on se mène la vie dure, impossible presque, parfois jusqu'au jour où on décide d'y mettre un point final.
Europe 1. Antidote. Anne Cazobon.
Antidote, dernière ligne droite jusqu'à 22h autour de la gratitude, toujours très bien entourée, de Joanne Toledano, comédienne, et Florence Servan-Schreiber, professeure de bonheur. Alors on a parlé beaucoup de merci, d'apprendre à dire merci, de gratitude ce soir, et parfois quand même c'est difficile, hein, ça grince un peu, ça coince un peu ce merci quand on nous a fait du mal.
Oui, et à la fois il faut savoir que la gratitude est le seul premier pas connu vers le pardon. C'est-à-dire que quand on nous a blessés, quand on s'est senti blessé, c'est pas évident de pardonner. Mais si on réfléchit bien, lorsque l'on pardonne, qui libère-t-on en premier lieu? C'est soi-même. Parce que souvent, la personne qui est en face n'a pas idée de ce qu'on lui reproche, même, à moins de lui avoir dit très clairement. Mais dans ce cas-là, en général, ça va déjà mieux. Donc en général, quand ça ne va pas encore, c'est qu'on retient du grief. La première étape, c'est de se dire, dans ce marasme que j'ai vécu, ou que je vis, ou que je ressens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour lequel je pourrais dire merci? C'est-à-dire, est-ce que cette situation-là ne m'a pas entraîné vers quelque chose d'autre qui aujourd'hui m'a permis de grandir, de me sentir mieux, etc. Et c'est ça qui va nous permettre par la suite d'accéder au pardon.
Ce divorce, cette maladie, cette rupture, ce licenciement. Joanne Toledano, oui, c'est difficile de dire merci parfois.
C'est difficile, mais je pense que ça devient facile quand on réalise les bienfaits de l'acte qui vient d'être commis. Enfin, par exemple, moi, je ne peux que dire merci à cet employeur, cette grosse société qui a racheté la société dans laquelle je travaillais, et du coup ce qui a permis aujourd'hui mon changement de carrière, etc. J'ai reçu un jour un mail, j'allais travailler comme un jour de tous les jours, et puis j'ouvre mon ordinateur et il y a un mail écrit qui nous dit cher salarié, etc.
Demain c'est grâce Matt.
Voilà, et en fait moi j'avais tellement besoin de cette libération, et que je n'avais aucun moyen de le faire par moi-même. J'avais l'impression de lire, c'était en anglais encore une fois parce que c'était une boîte américaine, c'est Dear Joanne, Universe has sent you your gift. L'univers t'envoie ce cadeau.
C'est fini. Libération.
Libération, ça pleurait dans les couloirs. Alors, j'étais très touchée, émue pour les autres, mais en même temps, assez égoïstement, je me disais, mais ça y est, freedom.
Enfin. Florence Servan-Schreiber, ça fait maintenant presque 2 heures qu'on écoute toutes ces belles histoires, tous ces merci à un inconnu. Et vous, quel inconnu souhaiteriez-vous mettre dans la lumière ce soir?
Oh, alors une histoire que j'adore, parce que moi ce qui m'éclate, ce sont les merveilles de la vie, les cadeaux. Un jour, je fais du rangement, c'est il y a pas très longtemps, et je trouve dans une armoire une espèce de d'armoire à pharmacie, un peu années 50, mochasse, un blanc cassé, un peu dégueulasse comme ça. Enfin bref, donc un vieux meuble en bois dont personne n'a que faire. Donc je me renseigne quand même, je demande chez moi, c'est à quelqu'un, personne ne sait à qui c'est. Je le descends dans la rue et se passe 24 heures plus tard. Normalement, quand on pose un meuble à Paris, il disparaît dans les 2 minutes. Hein. Ouais. Voilà, là, je le pose et puis 24 heures plus tard, je sors de chez moi et je retrouve cette armoire qui était là. C'est un tout petit meuble sur lequel quelqu'un avait extrêmement joliment calligraphié « Fais-moi l'humour toute la nuit ». J'ai repris, je me suis jetée sur l'armoire comme un plaquage de rugby, tellement c'était extrêmement joli, c'était poétique, c'était fantastique. J'ai repris ce meuble, mais vraiment comme un cadeau absolu. Je suis remontée immédiatement et c'est redevenu un meuble absolument central de mon appartement. Donc ça, c'était un cadeau génial.
Et vous, Joanne Toledano, quel est l'inconnu que vous souhaiteriez remercier ce soir?
Alors, c'était à New York. J'habitais à New York avec des amis à moi. À l'époque, je venais de finir mes études et je travaillais en ONG. Et puis, j'avais une vie absolument fabuleuse en tant qu'étudiante. Fin d'études à New York avec des colocataires géniales. On sortait. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, avec une de mes amies, on était déprimés, on n'était pas bien, angoissés. Alors que toute la vie nous souriait, impossible de percevoir tous ces cadeaux de la vie. Et On a parlé pendant des heures de tous les malheurs qu'on avait et même que l'on n'avait pas, et complètement déprimé. Et on a décidé de faire une petite balade du côté de Battery Park, et on pleurait, mais vraiment, ça, quand j'y repense, ça n'avait pas de sens, cette tristesse et cette angoisse. Et à un moment donné, on voit passer un inconnu handicapé qui avait une prothèse, une hijambiste, et qui courait, en fait, qui faisait un jogging avec un sourire, une patte, des écouteurs, et qui nous a regardé et qui m'a fait un clin d'œil, limite un petit peu comme ça, un peu séducteur. Et on a éclaté de rire, et en fait on s'est dit, mais c'est pas possible, comment ça fait 2 heures qu'on est en train de se morfondre et regarde ce cadeau de la vie. Et et du coup c'est sorti, je lui ai dit thank you comme ça, et puis voilà. Et le soir on a fait une grosse fête chez nous, il y avait 50 personnes. On a fini voilà par se dire merci. C'était une belle leçon de vie.
Merci pour ces belles histoires. Merci à toutes les deux d'être venues dans ce studio de Noël sur les ondes positives d'Europe 1. Florence Servan-Schreiber, je rappelle que la Fabrica Kiff est en tournée. Alors, c'est une tournée nationale. Vous serez le 28 janvier à Paris avec Audrey Acoun, Isabelle Payot, hein, cette masterclass de bonheur que vous donnez. Vous serez le 2 février à Lille, à La Ciotat, Toulouse, Bordeaux. Toutes les informations, on peut les retrouver sur votre site florencesservan-schreiber.com. Également, les dates de l'atelier que vous animez, Surprendre son cerveau. A priori, ça commencera début 2018. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Florence Servan-Schreiber. Et puis, je vous invite également à courir voir le spectacle de Joan Toledano, Lego, mon jeu préféré. Vous reprenez au théâtre Les Feux de la Rampe à partir du mardi 16 janvier. Vous y serez d'ailleurs tous les mardis jusqu'au printemps. On peut suivre toute votre actualité sur votre page Facebook Lego, mon jeu préféré, ou Joan Toledano, et puis sur Instagram également. Merci vraiment à toutes les deux d'être venues.
Merci, très bonne fête. Merci. Je voudrais juste dire un petit merci à mon metteur en scène et ma co-auteure qui me suivent dans cette aventure, qui ont rejoint un rôle vraiment très important. Et c'est un merci du fond du cœur à Audrey Nataf et Raphaël Almosny.
Allez, merci. On continue dans cette série des merci, parce que forcément une émission consacrée à la gratitude ne peut se terminer sans son cortège joyeux et folklorique de merci au milieu des étoiles et des pluies d'étoiles. Un immense merci à l'homme derrière la vitre, Guillaume Vasseau, qui a réalisé cette émission d'une main de maître et de deux même. Je voudrais remercier également la direction des programmes d'Europe 1 pour sa confiance, mais aussi le service des archives, la direction artistique pour leur contribution. Je remercie Laurence Verrier et Isabelle Almeras-Hérault pour commander d'ailleurs vos cartes de merci à colorier. Vous pouvez les retrouver sur larbresouslalune.com. Un immense merci à vous tous, auditeurs, animateurs d'Europe 1, pour vos messages, vos belles histoires transmises sur les ondes à l'aide de ce hashtag merci à un inconnu. Je rappelle que l'adresse laréponsedelinconnu@gmail.com existe également si vous entendez un moment qui vous parle, auquel peut-être vous auriez participer. Continuons cette longue chaîne positive sur les réseaux sociaux, histoire de prolonger ces belles ondes. Et puis dimanche prochain, dimanche 31 décembre, sur Europe 1 à 20h30, on se retrouvera autour d'une émission spéciale pour accueillir 2018, tendre les bras à cette nouvelle année, à tous ces projets fous que vous allez lancer. On regardera aussi un petit peu dans le rétroviseur tout ce qui s'est passé de beau dans votre année 2017. Et je serai en compagnie de Lilou Massé et de Sarah Serievic. Et puis moi aussi, ce soir, je voudrais remercier cet inconnu, ce monsieur qui sur un quai de métro, il y a 15 ans, m'a tendu la main, sans sa présence, sans son regard. Je ne serais pas derrière ce micro à vous parler de développement personnel tous les jours, parce que c'est ce qui a sauvé ma vie, ce chemin-là, et c'est ce qui améliore celle de beaucoup de personnes autour de nous. Si, si, regardez bien. Alors du plus profond de mon âme, pour m'avoir montré que l'on peut tout traverser et que l'on tire une force immense d'oser montrer sa vulnérabilité, merci monsieur. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite à tous de très belles fêtes à l'écoute d'Europe 1.